Quatrième couplet. Le dogan de Susanna. 1. La mémoire de Susanna était devenue désespérément lacunaire, totalement imprévisible, comme la transmission sur une vieille voiture. Elle se rappelait le combat contre les loups et Mia qui attendait patiemment que ça se termine. Non, ce n'était pas vrai, pas équitable. Mia avait fait bien plus qu'attendre patiemment que ça se termine. Elle avait encouragé Susanna et les autres, unissant son cœur de guerrière au leur. Elle tenait le travail en suspens pendant que la mère porteuse de son petit gars causait une hécatombe avec ses plats. Seulement les loups s'étaient trouvés être des robots. Alors pouvait-on vraiment dire que... Oui, on pouvait le dire. Parce qu'ils étaient plus que des robots, bien plus, et qu'on les avait tués. On s'était comporté avec droiture, on leur avait explosé la tête. Mais ce n'était plus le propos, c'était terminé à présent. Et dès la seconde où ça s'était arrêté, elle avait senti les contractions revenir, en plus fort. Elle allait avoir ce gosse sur le bord de cette fichue route si elle n'y prenait garde. Et alors il mourait, parce qu'il avait faim, le petit gars de Mia. L'ove est faim et... Aide-moi par pitié, Mia. Et impossible de ne pas réagir à ses supplications. Même à cet instant, alors qu'elle sentait Mia la mettre à l'écart, tout comme Roland avait su mettre Detta Walker à l'écart, il lui était impossible de ne pas réagir aux cris de panique de cette mère. En partie, se dit-elle, parce que c'était son propre corps qu'elle partageait, et que ce corps s'était déclaré en faveur du bébé. Sans doute ne pouvait-il pas faire autrement. Aussi lui avait-elle donné son aide. Elle avait fait ce que Mia ne pouvait plus faire. Elle avait retardé encore un peu l'accouchement. Même si elle savait que cet état serait préjudiciable au petit gars, c'est drôle comme cette expression s'immisçait dans ses pensées, comme elle se l'appropriait au même titre que Mia l'avait faite sienne, s'il se maintenait trop longtemps. Elle se rappela cette histoire que lui avait racontée une fille de son dortoir lors d'une longue soirée entre filles à la fac de Columbia. Elle devait être 5 ou 6, assise en pyjama, à fumer et à faire tourner une bouteille de Wild Irish Rose, absolument verboten, et donc 2 fois plus délicieux. L'histoire parlait d'une fille d'à peu près leur âge, au cours d'un voyage en voiture, d'une fille qui n'avait pas osé dire à ses amis qu'elle avait besoin de s'arrêter pour faire pipi. Dans l'histoire, la vessie de la fille avait éclaté et elle en était morte. C'était le genre de récit dont on se disait à la fois que c'était des conneries, tout en le croyant à 100%. Et le petit gars, le bébé. Mais quel que fût le danger, elle avait su interrompre les contractions. Parce qu'il y avait des interrupteurs pour ça, quelque part, dans le dogan. Sauf que les machines à l'intérieur du dogan n'avaient jamais été conçues pour ce qu'elle lui faisait faire. L'installation finirait par surchauffer et... rupture. Toutes les machines prendraient feu et disparaîtraient en fumée. Les alarmes se mettraient à hurler, les écrans de contrôle s'éteindraient. Combien de temps encore ? Susanna n'en savait rien. Elle se rappelait vaguement avoir sorti son fauteuil roulant d'un buca alors que personne ne faisait attention à elle, tous en train de fêter leur victoire et de pleurer leur mort. Escalader et soulever n'était pas chose facile quand on n'avait pas de jambes, mais ce n'était pas aussi difficile que les gens se l'imaginaient parfois. Et puis... elle avait l'habitude des obstacles de tous les jours, de monter ou descendre des toilettes jusqu'à attraper un livre sur une étagère, un livre qui lui était autrefois accessible, Elle avait un escabeau pour ce genre d'exercice dans chacune des pièces de son appartement de New York. Quoi qu'il en soit, Mia se montrait insistante, en fait. C'est même elle qui l'avait guidée, comme un cow-boy guiderait un veau sans mère. Aussi, Susanna s'était-elle hissée dans le buca, en avait extrait son fauteuil, puis s'était glissée presque directement dedans. Pas aussi facile que de faire rouler une bûche, mais elle avait déjà fait bien pire, depuis qu'elle avait perdu environ 50 centimètres de jambes. Le fauteuil avait roulé sur environ 1 kilomètre, son dernier kilomètre, peut-être un peu plus. Pas de jambes pour Mia, fille de personne, pas à la cala. Puis elle avait percuté un bloc de granit, l'éjectant du même coup. Heureusement, elle avait pu amortir sa chute avec les bras, épargnant ainsi son ventre agité et mécontent. Elle se rappela s'être relevée. Nuance. Elle se rappela Mia, relevant le corps pris en otage de Susanna Dean, et avoir remonté le sentier. Elle n'avait qu'un autre souvenir distinct de la cala, c'était d'avoir essayé d'empêcher Mia de lui retirer le lien de cuir qu'elle portait autour du cou. Un anneau y était attaché, un magnifique anneau de bois léger qu'Eddie lui avait taillé. En constatant qu'il était trop grand pour elle, il voulait lui faire une surprise et n'avait pas pu prendre la taille de son doigt. Il avait été très déçu et avait promis de lui en faire un autre. « Fais comme tu voudras, » avait-elle dit, « mais je porterai toujours celui-ci. » Elle se l'était accrochée autour du cou, en aimant le contact entre ses seins. Et voilà qu'arrivait cet inconnu, cette salope qui essayait de le lui arracher. Détta était de nouveau passé devant, s'était battu contre Mia. Détta avait été bien en mal de reprendre le contrôle contre Roland. Mais Mia n'avait pas la carrure d'un Roland de Gilead. Les mains de Mia avaient lâché la lanière de cuir. Elle perdait un peu de son emprise. Au même moment, Susanna avait senti une autre contraction violente la ravager, la pliant en deux dans un grognement de douleur.
« Il faut le retirer !» avait hurlé Mia. « Sinon, ils auront aussi son odeur, en plus de la tienne !» « Celle de ton mari, et ce n'est pas ce que tu souhaites, tu peux me croire. »«
Qui ça, il ?» avait demandé Susanna.
« De qui est-ce que tu parles ?»«
Peu importe, on n'a pas le temps, mais s'il décide de te suivre, et tu penses qu'il va essayer, je le sais, il ne faut pas qu'ils aient son odeur. Je vais le laisser ici, et il le trouvera. Peut-être, si telle est la volonté du cas, peut-être le porteras-tu à nouveau. »
Susanna avait pensé lui proposer de laver l'anneau, de laver l'odeur d'Eddie, mais elle savait que ce n'était pas seulement de l'odeur que Mia parlait. C'était un anneau d'amour, et cette odeur-là persisterait toujours.
Mais pour qui ?
Les loups, se dit-elle. Les vrais loups, ceux de New York. Les vampires dont leur avait parlé Callahan, et aussi les ignobles. Ou bien y avait-il autre chose ? Quelque chose d'encore pire.
Aide-moi !
Hurla Mia, et de nouveau Susanna se vit dans l'impossibilité de résister à ce cri. Le bébé était peut-être de Mia, mais peut-être pas. C'était peut-être un monstre, ou peut-être pas. Et son corps voulait accoucher de ce bébé. Ses yeux voulaient le voir, quel qu'il soit. Et ses oreilles voulaient entendre ses cris, même si ses cris devaient être des grognements. Elle avait retiré la bague, l'avait embrassée avant de la lâcher sur le bord du chemin, où Eddie ne manquerait pas de la trouver. Car il la suivrait au moins jusque-là, elle le savait. Et ensuite, elle n'en savait rien. Elle crut se rappeler avoir remonté un sentier abrupt sur un engin quelconque, sans doute le sentier qui menait à la grotte de la porte. Et puis, le noir. Pas le noir. Non, pas le noir complet. Il y avait des lumières qui clignotaient. L'éclat mat d'écran de télévision qui, pour l'instant, ne diffusait pas d'image, mais seulement une lumière grise et douce. le ronronnement léger des moteurs, le cliquetis des relais, c'était le Dogan de Jack le Dogan. Une sorte de salle de contrôle. Peut-être un lieu qu'elle avait inventé elle-même, peut-être sa version imaginaire de la cabane que Jack avait découverte sur la rive ouest de la Wai. La chose dont elle se souvenait ensuite clairement, c'est de s'être retrouvée à New York. Ses yeux étaient des fenêtres par lesquelles elle avait regardé Mia voler les chaussures d'une pauvre femme terrifiée. Susanna était revenue devant, demandant de l'aide. Elle voulait aller plus loin, dire à cette femme qu'elle devait absolument se rendre à l'hôpital, voir un médecin, qu'elle allait accoucher et que quelque chose n'allait pas. Mais avant qu'elle ait pu en dire le premier mot, elle s'était fait terrasser par une nouvelle vague de douleur, une vague monstrueuse, plus intense que toutes les douleurs qu'elle avait éprouvées dans toute sa vie. Plus violente encore que la douleur qu'elle avait ressentie en perdant ses jambes. Mais ça, oh mon Dieu, avait-elle dit. Mais Mia avait repris les rênes avant qu'elle ait pu poursuivre, suppliant Susanna d'arrêter ça et disant à la femme que si elle s'avisait de prévenir les flics, elle perdrait une paire bien plus précieuse que ses chaussures.
Mia, « écoute-moi, » lui avait dit Susanna. « Je peux tout arrêter. Je le crois, en tout cas. Mais il va falloir que tu m'aides. Tu dois t'asseoir. Si tu ne te poses pas un peu, Dieu lui-même ne pourra pas t'empêcher d'accoucher. Tu comprends ce que je te dis? Tu m'entends ?»
Mia l'avait entendu. Elle s'était immobilisée un instant, observant la femme à qui elle avait volé ses chaussures. Puis, presque timidement, elle avait posé cette question.
« Où je pourrais aller ?»
Susanna avait senti que sa ravisseuse prenait seulement conscience de l'immensité de la ville dans laquelle elle se trouvait maintenant. Des bancs de piétons déferlant sur les trottoirs, des flots de véhicules métalliques, et un sur trois était recouvert de cette couleur jaune criarde. Et de ces tours si hautes que, par temps nuageux, on n'en voyait pas le sommet. Deux femmes contemplaient une cité inconnue à travers un seul regard. Susanna savait qu'il s'agissait de sa ville, et pourtant, par bien des aspects, elle ne l'était plus. Elle avait quitté New York en 1964. Combien d'années s'étaient écoulées depuis? 20? 30? Peu importait, ce n'était pas le moment de s'en soucier. Leur regard commun s'arrêta sur le petit jardin de poche de l'autre côté de la rue. Pour l'instant, les contractions avaient cessé, et lorsque le feu indiqua « passer piéton », la femme noire qui s'était présentée à Trudy Damascus, femme qui n'avait pas particulièrement l'air enceinte, traversa d'un pas lent mais régulier. Au fond du jardin se trouvaient un banc, une fontaine et une sculpture métallique. La vue de cette torture réconforta quelque peu Susanna. Comme si Roland lui avait laissé un signe, ce que le pistolero lui-même aurait appelé un sigleux.
« Lui aussi viendra me chercher, » dit-elle à Mia.
« Et tu ferais bien de te méfier de lui, ma vieille. Tu ferais bien de sérieusement te méfier. »
« Je ferai ce que j'ai à faire, » répondit Mia. « Tu veux voir les feuilles de papier de cette femme? Pourquoi ?»«
Je veux savoir quand on est. Le journal nous le dira. »
Des mains sombres extirpèrent le journal roulé du sac en toile Borders, le déplièrent et le tinrent devant une paire d'yeux bleus qui s'était ouvert ce matin, aussi brun que la peau de ses mains. Susanna vit la date. 1er juin 1999, et en fut éberluée. Ni 20, ni même 30 années, mais 35. Jusqu'à cet instant, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle n'avait pas envisagé que ce monde puisse survivre aussi longtemps. Les contemporains qu'elle avait fréquentés dans son ancienne vie, connaissance de fac, défenseurs des droits civils, compagnons de beuverie et aficionados de musique folk, devait à présent frôler la soixantaine. Certains étaient sans doute morts.
Ça suffit,
s'exclama Mia en jetant le journal dans la poubelle, où il reprit sa forme de rouleau. Elle s'épousseta tant bien que mal la plante des pieds. À cause de la saleté, Susanna ne remarqua pas qu'ils avaient changé de couleur, puis enfila les chaussures volées. Elles étaient un peu serrées et portées sans chaussettes, elle se dit qu'elle lui donnerait des ampoules si elle devait marcher beaucoup. Mais...
« Qu'est-ce que ça peut te faire ?» se dit Susanna.
« Après tout, c'est pas tes pieds. » Et aussitôt qu'elle eut prononcé ces mots, parce que c'était bien une forme de discussion, ce que Roland appelait « palabrer », elle pensa que peut-être elle se trompait. Il était vrai que ses pieds à elle, ceux qui avaient docilement porté Odetta Holmes et parfois même Detta Walker, avaient disparu depuis longtemps, livrés à la putréfaction ou, plus vraisemblablement, brûlés dans quelque incinérateur municipal. Mais elle n'avait pas remarqué le changement de couleur. Plus tard, elle se dirait « Tu l'avais remarqué, c'est sûr. Tu l'avais remarqué et tu l'avais refoulé, parce que trop, c'est trop. » Avant de pouvoir approfondir cette question, philosophique autant que physique, qui consistait à se demander à qui étaient les pieds qu'elle possédait à présent, elle fut percutée de plein fouet par une autre contraction. Elle lui tordit l'estomac et son ventre devint dur comme la pierre, tandis que ses jambes se dérobaient sous elle. Pour la première fois, elle ressentit le besoin impérieux et terrifiant de pousser.
« Arrête ça !» hurla Mia. « Femme, tu le dois !» Au nom du petit gars, et pour nous aussi.
Oui, d'accord, mais comment ?
Ferme les yeux, lui dit Susanna.
Quoi ? T'as pas entendu ce que je t'ai dit ?
Il faut que tu...
Je t'ai entendu, répondit Susanna.
Ferme les yeux.
Le jardin disparut. Le monde se fit ténèbres. Elle n'était plus qu'une femme de couleur. Encore jeune et belle, c'était un fait, assise sur un banc à côté d'une fontaine et d'une tortue métallique à la carapace humide et miroitante. Elle aurait très bien pu être en train de méditer en cette fin d'après-midi ensoleillée de juin 1999.
« Je vais m'absenter un petit moment, » dit Susanna. « Je vais revenir. Pendant ce temps, reste assise où tu es. Sans bouger. La douleur devrait s'apaiser, mais même dans le cas contraire, reste tranquillement assise. Si tu bouges, ça ne fera qu'aggraver les choses. Tu m'as bien comprise ? »
Mia avait beau avoir peur et être bien décidée à n'en faire qu'à sa tête, elle n'était pas stupide pour autant. Elle ne posa qu'une seule question.
« Où vas-tu ? »
« Je retourne au Dogan. » répondit Susanna. « À mon Dogan à moi, celui de l'intérieur. »
2. Le bâtiment que Jake avait découvert sur la berge de la Wye était une sorte d'ancien avant-poste de surveillance et de transmission. Le garçon le leur avait décrit en détail, mais peut-être n'aurait-il pas reconnu la version imaginaire que s'en était faite Susanna. Une version fondée sur une technologie largement dépassée 13 ans plus tard, lorsque Jake avait quitté New York pour l'entre-deux-mondes. Dans le « camp » de Susanna, c'était toujours Lyndon Johnson qui était président, et la télécouleur était encore une curiosité. Les ordinateurs étaient des engins monstrueux qui remplissaient des immeubles entiers. Pourtant, Susanna avait visité la cité de Lude et vu là-bas des merveilles. Aussi, Jake aurait-il pu reconnaître l'endroit où il s'était caché de Ben Slightman et d'Andy le robot messager, après tout. En tout cas, il aurait à coup sûr reconnu le sol recouvert de linoléum poussiéreux, avec ses motifs quadrillés rouges et noirs. Les chaises à roulettes alignées le long de consoles de commande remplies de lumières clignotantes et de cadrans rougeoyants. De même qu'il aurait reconnu le squelette dans le coin, souriant au-dessus du col élimé de sa vieille chemise d'uniforme. Elle traversa la pièce et alla s'asseoir sur l'une des chaises. Au-dessus d'elle, des écrans de télé en noir et blanc diffusaient des dizaines d'images. Certaines étaient des vues de Calabrine Sturgis, la pelouse, l'église de Callahan, l'épicerie générale, la route de l'Est. D'autres étaient des plans fixes rappelant des photos de studio. Une de Roland, une de Jake tout sourire, avec Otay dans les bras. Et une, elle en supporta à peine la vue, d'Eddie, avec son chapeau en arrière à la cow-boy et son couteau à sculpter à la main. Un autre moniteur montrait la jeune femme noire et mince, assise sur son banc près de la tortue, jambes serrées, les mains croisées sur les cuisses, les yeux fermés, une paire de chaussures volées aux pieds. À présent, elle avait trois sacs. Celui qu'elle avait volé à cette femme sur la deuxième avenue, la sacoche de jonc contenant les plats d'oriza affûtés et un sac de bowling. Il était d'un rouge fané et on distinguait à l'intérieur un objet de forme carrée. Une boîte. En la voyant à l'écran, Susanna sentit la colère monter en elle, un sentiment de trahison, sans savoir pourquoi. Ce sac était rose de l'autre côté, se dit-elle. Il a changé de couleur quand on a traversé, mais pas de beaucoup. Sur l'écran en noir et blanc au-dessus de la console, le visage de la femme se tordit de souffrance. Susanna ressentit comme un écho de la douleur qui traversait Mia, mais lointain et estompé. Il faut que j'arrête ça, et vite. Mais la question demeurait. Comment ? De la même manière que de l'autre côté, quand elle traînait sa foutue cargaison jusqu'à la grotte, aussi vite qu'elle le pouvait. Mais ça lui paraissait très lointain à présent, dans une autre vie. Et d'ailleurs, pourquoi pas ? C'était bel et bien une autre vie, un autre monde, et si elle espérait y retourner un jour, c'est maintenant qu'il fallait qu'elle trouve quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait ?
Tu t'es servi de ce truc, voilà ce que tu as fait. C'est uniquement dans ta tête, de toute façon. C'est ce que le professeur Overmeyer appelait une technique de visualisation en première année de psycho. Ferme les yeux.
Susanna ferma les yeux. À présent, elles avaient toutes les deux les yeux fermés. Les yeux physiques que Mia contrôlait à New York et les yeux dans la tête de Susanna.
Visualise.
C'est ce qu'elle fit. Ce qu'elle essaya de faire.
Ouvre.
Elle ouvrit les yeux. Sur le panneau de commande en face d'elle, elle vit deux gros cadrans et un interrupteur à bascule. Là où auparavant se trouvaient des rhéostats et des diodes clignotantes. Les cadrans semblaient être en bakélite, comme les boutons du four de sa mère, dans la maison où elle avait grandi. Elle n'en fut pas surprise outre mesure. Tout ce qu'on imagine, si exubérant que cela paraisse, n'est rien d'autre qu'une version déguisée de ce que l'on connaît déjà. Le cadran à sa gauche portait la mention « temps émotionnel ». Les graduations allaient de 32 à 212, 32 en bleu, 212 en rouge vif. Il était en position sur 160. Le cadran du milieu portait quant à lui la mention « force de travail ». Les chiffres allaient de 1 à 10, et il indiquait présentement 9. L'étiquette placée sous l'interrupteur disait seulement « petit gars ». Et il n'y avait que deux positions possibles, réveillé ou endormi. Il était actuellement réveillé. En levant les yeux, Susanna constata qu'un des écrans diffusait des images d'un fœtus in utero. Il s'agissait d'un garçon. d'un beau garçon. Son pénis minuscule flottait comme un brin de varech sous la boucle paresseuse de son cordon ombilical. Il avait les yeux ouverts, et bien que le reste de l'image fût en noir et blanc, ses yeux étaient d'un bleu perçant. Le regard du petit gars semblait se planter droit dans le sien. « Ce sont les yeux de Roland, » pensa-t-elle, tellement ahurie qu'elle se sentit totalement idiote.
« Comment est-ce possible ?»
Ça n'était pas possible, bien entendu. Ce n'était là rien d'autre que le travail de son imagination, une technique de visualisation, rien de plus. Mais si tel était le cas, pourquoi imaginerait-elle les yeux bleus de Roland ? Pourquoi pas les yeux noisettes de son mari ? Ça n'est pas le moment. Fais ce que tu as à faire. Tout en se mordant la lèvre inférieure, elle tendit la main vers le cadran tant émotionnel. Sur l'écran de contrôle montrant le banc dans le parc, Mia se mit elle aussi à se mordre la lèvre. Elle hésita, puis le fit tourner jusqu'à 72, exactement comme s'il s'agissait d'un thermostat. D'ailleurs, n'était-ce pas tout à fait ça? Elle sentit un grand calme l'envahir instantanément. Elle se détendit sur sa chaise et ses dents libérèrent sa lèvre. Sur son banc, la femme fit de même. Très bien. Jusqu'ici, pas de problème. Elle hésita de nouveau, la main en suspens au-dessus du cadran, force de travail, puis se rabattit sur l'interrupteur petit gars. Elle le fit basculer en position endormie. Les yeux du bébé se fermèrent sur le champ. Susanna s'en trouva étrangement soulagée. Ses yeux bleus la décontenançaient. Bien. Retour à force de travail. Susanna avait comme l'impression que c'était le plus important, ce qu'Eddie aurait appelé le grand casino. Elle saisit le cadran, lui imprima une légère rotation et ne fut pas surprise de constater que ce vieux truc résistait. Il ne voulait pas tourner.
« Mais tu vas tourner, » songea Susanna. « Parce qu'on a besoin que tu tournes, on en a besoin. »
Elle s'en empara fermement et se mit à le faire pivoter doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une douleur lui vrilla la tête et elle fit la grimace. Elle se sentit momentanément la gorge serrée, comme si elle s'était coincé un os de poulet dans l'ésophage. Puis les deux douleurs disparurent. À sa droite, tout un pan de diode s'alluma, en orange pour la plupart. Quelques-unes rouges vifs. Attention, fit une voix ressemblant sinistrement à celle de Blaine le Mono. Cette opération pourrait nuire aux paramètres de sécurité.
Sans déconner, Einstein,
pensa Susanna. Le cadran force de travail était positionné sur 6. Lorsqu'elle descendit à 5, une autre série de diodes orange et rouge s'alluma brusquement et 3 des moniteurs diffusant des vues de la cala s'éteignirent d'un coup, dans un grésillement. Elle ressentit une nouvelle douleur dans la tête, comme si ses doigts invisibles lui comprimaient le crâne. Quelque part sous elle, des moteurs ou des turbines se mirent en route en gémissant. Des gros, à en juger par le bruit. Elle en sentait la pulsation sous ses pieds, nue bien sûr. C'était Mia qui avait pris les chaussures.
« Très bien, » se dit-elle. « Avant tout ça, je n'avais pas de pied du tout, alors peut-être que j'ai une longueur d'avance finalement. »«
Attention !» répéta la voix synthétique. « Ce que tu fais est dangereux, Susanna de New York. Entends-moi, je te prie. » C'est mal de vouloir rouler mère nature. Un des proverbes de Roland lui revint en mémoire. Fais ce que tu as à faire, je ferai ce que moi j'ai à faire, et on verra qui gagnera loi. Elle n'était pas certaine de la signification, mais ça lui paraissait adéquat dans cette situation. Aussi le répéta-t-elle à voix haute, tout en faisant pivoter le cadran sur 4, 3. Elle espérait le faire descendre jusqu'à 1, mais la douleur qui lui traversa la tête lorsque ce stupide truc passa le 2 était tellement intense, et la nausée qui la submergea tellement violente, qu'elle retira sa main. La douleur persista quelques instants, s'intensifia même, et elle crut qu'elle allait la tuer. Mia basculerait du banc sur lequel elle était assise, et elle se retrouverait morte, toutes les deux, avant que leur corps commun ne heurte le sol, au pied de la statue en forme de tortue. Le lendemain ou le surlendemain, ses restes atterriraient gentiment dans la fosse commune. Et que mettrait-on sur le certificat de décès? Crise cardiaque? Attaque? Ou peut-être ce bon vieux classique du médecin pressé, cause naturelle. Mais la douleur décrut et Susanna constata qu'elle était toujours en vie. Elle était assise face au panneau de commande, avec ses deux cadrans et cet interrupteur ridicule, à prendre de longues inspirations et à éponger la sueur qui perlait sur ses joues et dans la paume de ses mains. Saperlipopette. Pour ce qui était de sa technique de visualisation, elle pouvait s'inscrire pour les championnats du monde. C'est plus que de la visualisation. Tu en as conscience, pas vrai?
Sans doute, oui.
Quelque chose l'avait changé. Les avait tous changés. Jake avait attrapé le don de Shining, une sorte de télépathie. Eddie avait développé et développait toujours une faculté particulière de créer de puissants talismans, dont l'un leur avait déjà servi à ouvrir une porte entre deux mondes. Et elle?
Moi? Je vois, c'est tout. Si je vois assez fort, les choses deviennent réelles, tout comme Detta Walker était devenue réelle.
Partout dans sa version du Dogan, des lumières oranges s'étaient mises à clignoter. Sous ses yeux, certaines virèrent au rouge. Sous ses pieds, des pieds invités d'honneur, comme elle les considérait. Le sol se mit à trembler dans un raclement sonore. Encore un peu et des fissures lézarderaient le revêtement fatigué. Des fissures qui erraient en s'élargissant. Mesdames et messieurs, « bienvenue dans la maison Usher. » Susanna se leva de sa chaise et balaya la pièce du regard. Il fallait rentrer. Avait-elle autre chose à faire auparavant? Et il lui sembla que oui.